Je vois en peinture et je vis en peinture. Le moindre morceau de couleur me rappelle un tableau. La peinture, c'est infini, ça tient en vie. Agnès Turnauer est ce soir notre invitée pour clôturer cette semaine consacrée aux peintres. Et comme chaque soir, nous allons commencer en musique et ça sera avec les Bee Gees. J'adore ça. Voyez-vous tout en peinture, Agnès Turnauer? Par exemple, aujourd'hui où la lumière était très belle, est-ce que vous avez pensé à cette lumière?
Oui, je vois tout en peinture et j'ai pensé à un tableau dans le métro en venant, à une près d'elle, c'est qui fait partie d'une de mes séries. J'ai tout le temps cette conversation intérieure avec l'espace de la représentation, on va dire.
Quand ça a commencé? Toute petite?
Toute petite, oui. À 3 ans.
Comme ça, une révélation? Vous avez commencé à dessiner et avec vos doigts à prendre de la couleur?
Non, j'ai commencé à peindre directement avec des pinceaux dans des pots de couleurs à l'école et je suis tombée dans la peinture et ça m'a parlé et je lui ai parlé et on a continué.
Comment on parle à la peinture?
On parle parce qu'on figure des espaces, on parle parce qu'on représente, et représenter c'est une forme d'incarnation de quelque chose, d'une altérité, et l'altérité elle vous répond, elle change au gré de du regard que vous posez dessus, donc il y a une conversation absolument ininterrompue, et qui plus vous enrichissez de ce que vous avez vu, plus elle se nourrit et elle se perpétue et elle est éternelle.
Vous parlez de la peinture entre vous et la peinture, comme s'il s'agissait d'un couple.
Oui, c'est un couple et c'est à la fois une matrice, pour reprendre un terme, le terme d'une de mes séries. En fait, c'est une espèce de, c'est à la fois quelqu'un et c'est une espèce de poche qui vous met au monde continuellement, en fait, parce qu'à chaque fois qu'on fait un tableau ou qu'on fait une œuvre, elle nous transforme. Elle transforme notre rapport, notre regard. Elle nous transforme. Moi, j'ai souvent eu l'impression d'être transformée par des œuvres que j'ai faites, surtout des grands tableaux, surtout ceux qui sont très compliqués à faire. J'ai l'impression que on se met au monde mutuellement.
Ça s'apprend, la peinture, Agnès Turnauer?
Non, enfin, pour moi, ça s'est pas appris au sens d'une école ou ça s'est pratiqué. J'ai appris en pratiquant.
Autodidacte.
Oui, tout à fait.
Et c'est dur d'être autodidacte, parce que ça veut dire ne pas être forcément repéré par les conservateurs de musées, les galeristes, ne pas faire partie d'un réseau.
Ah oui, complètement. Enfin, voilà. Oui, c'est sûr que... non, mais autodidacte, ça remonte à l'enfance, et puis ensuite, ne pas avoir envie de faire une école de peinture et choisir d'étudier plutôt le cinéma, parce que j'avais déjà une pratique dans mon atelier. Et ensuite, surtout, ne pas me préoccuper du tout pendant assez longtemps de montrer, de rencontrer, d'être dans ce que j'appelle ma grotte ou mes broussailles, à l'écart, et de travailler en me disant que voilà, c'est ça qui comptait.
Elle est en périphérie parisienne, votre grotte. On appelait ça autrefois un atelier. Comment pourriez-vous le décrire?
La phrase de Virginia Woolf qui me vient, une promenade au phare. C'est une espèce de grand phare, un peu, parce que c'est très lumineux. Donc souvent, j'ai l'impression c'est un lieu qui reçoit de la lumière, mais qu'il en distille aussi sur l'extérieur. C'est au bord des voies ferrées, on voit très loin. Et je pense que l'atelier, il se peuple des gestes qu'on y effectue au fur et à mesure. Donc il est extrêmement rempli de travail, des tableaux, des sculptures, mais d'un travail potentiel. Et je le sens de plus en plus quand j'arrive, quand je franchis la porte, il y a une espèce de... Je sais que l'atelier sait que j'arrive pour travailler, qu'on va se mettre en route.
Une communauté de sensations, de perceptions. Vous êtes ensemble, l'atelier, vous et la peinture, qui se met en mouvement. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
Il se passe, quand je franchis la porte, en fait, il se passe qu'il y a une espèce de diapason qui se crée entre le lieu et le corps qui arrive, et le corps inclut le cerveau, hein. Je fais pas du tout différence. On en parlera peut-être plus tard, entre ce qui est sensible et ce qui est conceptuel. Et tout l'humus de l'atelier, tout le terreau, la table d'expérience, tous les matériaux, les tableaux sont là, et c'est avec ce matériau-là que je vais travailler en arrivant. Et l'atelier répond parce qu'il a emmagasiné, il a consigné tout ça, et qu'il va m'offrir, selon les jours, un certain nombre de tableaux en un certain ordre assemblé, qui vont m'emmener à tel endroit, où je vais aller à tel lieu de l'atelier, où je vais continuer telle série des près d'elle, où je vais continuer un grand tableau. Mais j'ai vraiment de plus en plus l'impression que l'atelier est un assistant ou une assistante. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui se coproduit. Oui.
Vous acceptez, Agnès Turnauer, le terme d'inspiration, ou est-ce que c'est ringard aujourd'hui quand on est peintre?
Non, non, c'est pas du tout ringard. Mais l'inspiration, c'est une respiration. On est continuellement inspiré. Enfin, avec ce qu'on inspire vient le travail, bien sûr, oui. Oui, complètement.
Donc la peinture, c'est d'abord du travail. Du commencement, du recommencement, de la répétition, du rendez-vous avec elle, tous les jours.
Ouais, tous les jours, c'est mieux. D'ailleurs, quand je suis trop à l'écart de l'atelier, parce que je prépare des expositions, je suis dans des musées, etc., ça me manque beaucoup, j'ai vraiment besoin de revenir. C'est fondamental, c'est le cœur, c'est un espèce de bain dans... on est au cœur complet de la, oui, du travail, de là où ça prend sa source, de là où ça se déploie. Ce qu'il y a aussi ça chez moi, c'est que je travaille de façon atemporelle. J'ai pas une série qui remplace une autre. Donc la présence, la coprésence de toutes mes séries à l'atelier, elle est très importante parce que elles s'épanouissent comme ça en corolle et je les fais travailler les unes avec les autres. Et la colonne vertébrale, c'est au centre, c'est le fait d'être là, de moi dialoguer avec mes tableaux, mes œuvres, les formes et de poursuivre ce travail. Ce qui fait aussi que j'ai jamais de panne d'inspiration en fait.
Être artiste requiert-il, selon vous, une solitude totale ?
Je crois que c'est les deux, en fait. Je pense que la solitude, pour moi, elle est très importante. Elle est de plus en plus importante. J'ai vraiment besoin de très longues plages seules à travailler. Mais le travail s'effectue constamment en conversation avec... les œuvres que j'ai vues, les idées que je poursuis, ce que j'ai envie de dire, ceux à qui ça s'adresse, les gens qui vont voir les œuvres quelque part, comment ils vont travailler, comment ça va. Moi, j'aime beaucoup l'idée que l'art réveille la part créative des spectateurs et spectatrices. Donc, j'ai beaucoup cette idée en tête, c'est-à-dire la rencontre aussi de l'autre avec mon travail.
L'art pour tous, vous êtes une peintre ni abstraite ni expressionniste. On reviendra sur la multitude de vos registres artistiques, Agnès Turnauer. Mais en ce moment même où nous parlons, vous avez installé dans un jardin public d'une banlieue proche de Paris des éléments qui permettent aux enfants de jouer. Et je sais que vous vous rendez très souvent dans ce square pour observer comment ce que vous avez créé provoque de joie ou d'élan.
Oui, c'est un privilège de pouvoir installer une œuvre dans l'espace public parce que effectivement, on peut voir comment la ville et ses habitants s'emparent de ce travail. Et là, il s'agit d'un travail sur le langage qui traverse toute mon œuvre. Et ce sont des sculptures qui s'appellent les matrices, qui sont des moules de lettres. Et qui sont là à l'échelle du corps. Le corps est toujours très important dans mon travail. Et le corps et le langage. Et donc, il y a les 20 consonnes de l'alphabet à hauteur d'assise, à 45 cm de haut, en bronze. Et ce qui est offert aux habitantes et aux habitants, c'est cet espace en creux de la lettre, donc cette potentialité du langage. À l'inverse d'un langage qui ferme, qui définit, qui cloisonne. Là, c'est vraiment le langage comme espace d'ouverture qui nous permet de se retrouver soit avec soi-même, soit avec les autres, et de que le langage soit ouvert. Voilà. Et c'est vrai que c'est très émouvant quand une grande sculpture, c'est une œuvre de grande échelle, hein, elle s'étale sur toute une esplanade, de venir observer comment la vie se crée avec, dedans, autour, et comment les gens l'apprivoisent.
Je vous propose d'écouter la voix de quelqu'un qui, je crois, a beaucoup compté pour vous, un très grand historien de l'art, aujourd'hui hélas disparu, mais qui a laissé beaucoup de livres. Il s'appelait Daniel Arras. Il va parler de la peinture qui pense et de la peinture qui parle. C'est un extrait d'une histoire de la peinture qu'il avait donnée à France Culture. C'était en 2003, la voix de Daniel Arras.
Comme le disent les Goncourt, à propos d'un tableau de Chardin, à ce moment, la peinture se lève. Elle se lève et à ce moment-là, elle me prend, elle vous prend. Et là, il y a une véritable émotion. Alors, de quel type est cette émotion? Ça, c'est difficile à dire. En revanche, qu'est-ce qui fascine dans un tableau? Qu'est-ce qui fascine dans un tableau? Qu'est-ce qui fait que telle œuvre, plutôt que telle autre, fait qu'on s'arrête et qu'on ne peut pas s'en détacher? Ou que l'œuvre, comme disait Roger de Pile à la fin du 7e siècle, l'œuvre vous appelle. En ce qui me concerne, je dirais que c'est le sentiment que là, vraiment, dans cette œuvre-là, il y a quelque chose qui pense. Il y a quelque chose qui pense, et qui pense sans mots. Et moi, je suis quelqu'un qui parle. Hein, j'ai quelqu'un qui écrit. Ma pensée, c'est avec les mots qu'elle se cherche, qu'elle s'exprime, qu'elle se formule, qu'elle se transmet. Et un tableau de peinture ou une peinture en général, eh bien, elle pense et elle pense non verbalement. Et certaines peintures, pour moi, m'attirent, me fixent, m'arrêtent, me parle, comme dit Roger de Pile, elle a quelque chose à me dire, mais il se trouve qu'en fait, elle ne me dit rien. Et cette fascination-là, cette attente, cette mise en position d'attente de quelque chose, qui fait que la peinture, le tableau ou le lieu de peinture, m'arrête et me fixe.
Nous venons d'entendre la voix de Daniel Arras. La peinture se lève, disait-il. Et c'est vrai que vous êtes une artiste, entre guillemets, sensible, qui a appelé à celles et ceux qui regardent votre travail, d'être ému, voire d'être bouleversé, de réfléchir, etc. Quand la peinture se lève-t-elle vraiment? Et est-ce que l'artiste sait quand la peinture se lève? Ou pour reprendre l'autre expression de Daniel Arras, l'œuvre vous appelle?
Oui, je suis très très... je vous remercie d'avoir retrouvé ce passage merveilleux. Je connais très bien ce passage où il dit « la peinture se lève » et je l'ai souvent en tête. Parce qu'il dit qu'une fois que la peinture s'est levée, on peut la voir ensuite dans une carte postale parce que la rencontre s'est passée. C'est un passage, c'est merveilleux.
Oui, ça veut dire que c'est pas forcément le contact avec l'œuvre d'art première que l'émotion peut surgir. C'est très important, je crois, à souligner aujourd'hui. C'est-à-dire que l'émotion, elle peut nous saisir dans une reproduction d'une œuvre d'art.
Aussi, mais il dit qu'il faut bien l'avoir rencontrée au départ, quand même, en chair en os, si je puis dire. Et c'est pour moi, c'est quelque chose de très prégnant. Il y a vraiment des tableaux qui m'ont saisie, même alors que je traversais des salles d'exposition, pas forcément pour voir ce tableau-là, et que tout d'un coup, quelque chose m'attire dans le coin de mon champ de vision, et que, effectivement, le tableau se lève dans toute sa puissance, dans toute son étrangeté, dans toute son intemporalité, dans ce qu'il a à dire, dans sa complexité. Et parfois, j'ai du mal à quitter les salles d'exposition. Je sors, et puis je peux pas, je reviens, et puis je repars, et puis je reviens, parce que j'ai encore besoin d'être devant l'œuvre. Et à l'atelier, il arrive que les tableaux, enfin, je dirais plus qu'ils prennent vie. Il m'est arrivé souvent, surtout dans les grands tableaux de mètres par trois, d'avoir longtemps le sentiment d'être face à un corps inanimé, de pas savoir comment m'y prendre, de passer des heures. Parfois, j'écris dans mon journal qu'il faut que je réopère, qu'il faut que je fasse le sacrifice de tel endroit, qui pourtant était plutôt pas mal. Maintenant, c'est presque comme un corps sur une table chirurgicale, et il faut reprendre, repartir, rechercher, refouiller, et tout d'un coup quelque chose palpite, et tout d'un coup le tableau vous fait savoir qu'il est en train de... Oui, il y a quelque chose qui se passe, et qui... Oui, il y a une organicité, je trouve, tout à fait. Ouais.
La peinture est un corps vivant pour vous, Agnès Turnauer.
Oui, complètement. Et un corps, ce que je trouve merveilleux dans la peinture, c'est que c'est pas un corps parfait. Pour moi, la peinture, c'est pas quelque chose de spectaculaire qui domine les visiteurs de façon uniforme. C'est un corps avec sa splendeur, ses manquements, ses ratages parfois. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est cette polyphonie de la peinture, ce corps qui est composite. Voilà. Et ce que j'aime le plus dans l'histoire de l'art et dans les artistes, les peintres autour de moi, c'est ça, c'est cette capacité à faire coexister sur le même plan des moments de génie, où tout d'un coup la peinture resplendit, puis des trous comme dans toute l'histoire de l'art où il y a des zones qui sont pas peintes. Enfin, cette humanité de la peinture, c'est bouleversant.
Et pourtant, dans votre œuvre, Agnès Turnauer, il y a beaucoup de registres différents. Il y a des lettres en 3D, il y a des écritures, on y reviendra. Il y a des actes de féminisme, on y reviendra aussi. Il y a toute une pensée sur les couleurs, mariage des fauves notamment. Et dans l'histoire de la peinture, il y a des peintres qu'on dit abstraits et puis des peintres qu'on dit plus expressionnistes, qui travaillent plus avec le corps même de la peinture. En ce moment même, à Paris, il y a une magnifique exposition sur Soutine et de Koenig au musée de l'Orangerie, où vous exposez vos œuvres en ce moment même aussi. Vous cohabitez avec ces deux peintres. Est-ce que vous êtes plutôt du côté de cette... où on peut penser à Jackson Pollock, par exemple, qui utilisait la peinture comme, comme matériau pour surcharger l'espace de la toile. Est-ce que pour vous, la peinture, c'est aussi un matériau qui doit apparaître à celles et ceux qui la regardent ? Ou il s'agit d'autre chose dans ce corps de la peinture dont vous nous parlez ?
Et la peinture, c'est comme le corps. Oui, c'est comme il y a tout ce qui est sensible, il y a tout ce qui est conceptuel, mais qui n'est pas coupé du corps. Je suis toujours très étonnée qu'on ait oublié que dans toute l'histoire de la peinture, comme disait Léonard de Vinci, c'est un cosa mental. Et Daniel Arras, il le dit très bien, c'est magnifique quand il dit que la peinture pense, mais c'est tellement vrai. Quand on voit, par exemple, chez Manet, des personnages... suspendus de leur pensée. J'ai reçu ce matin le petit tableau de Berthe Morisot par Manet qui est exposé en ce moment à Marmottan. C'est un tableau que je connais bien, un petit tableau de poche extraordinaire, tout petit, mais elle pense. C'est extraordinaire de voir la capacité de représenter cette pensée arrêtée dans le plan du tableau. Donc oui, pour moi, il y a le langage, l'écriture fait partie de la peinture et il n'y a absolument aucune césure entre sensible et conceptuel. Comme le dit très bien Daniel Arras, ni entre abstrait figuratif. Je suis très étonnée aujourd'hui qu'on puisse se dire peintre abstrait ou peintre figuratif. Pour moi, c'est tellement une question de vous avez parlé de Georgia O'Keeffe, on voit très bien comment certains cadrages rendent le motif abstrait et d'autres ça représente quelque chose, mais pour moi en fait toute la peinture est abstraite. Elle représente quelque chose qui n'existe pas dans le plan du tableau. Donc, j'ai pas ces cases, en fait, dans la tête, ni dans les yeux.
Je vous propose d'écouter la voix de Louise Bourgeois à propos du passé comme terreau de son art. C'est une archivina du 9 juin 1994.
Il est très difficile de recréer le passé. Parce que le passé a deux visages. C'est le visage positif. Quelqu'un a dit, mais Louise, c'était une jeunesse dorée. C'est idiot de dire ça. C'était une jeunesse dorée d'un point de vue, mais c'était une jeunesse très pénible d'un autre point de vue. C'est-à-dire que, au sein de la famille, il y avait comme un virus qui était traumatique pour nous, pas seulement pour moi, mais pour mon frère et ma sœur. C'est-à-dire que nous souffrions d'une fissure dans la cellule familiale. Et cette fissure représentait, c'est bien français, était représentée par le fait que mon père introduisait des maîtresses. Ça, c'est son affaire. Mais je ne le juge pas. Mais il introduisait des maîtresses dans la maison. Et c'est là que le trauma a eu lieu.
Nous venons d'entendre Louise Bourgeois qui parlait donc de ce trauma et de sa relation quasi presque incestueuse avec son père et de sa manière dont finalement dans le dernier tiers de sa vie, elle a utilisé son génie de peintre et d'artiste pour remonter dans les racines de son trauma et nous donner des œuvres qui nous font beaucoup, beaucoup réfléchir et qui pour le coup nous émeuvent au plus profond de nous-mêmes. Est-ce que vous agréez aux propos de Louise Bourgeois ou est-ce que vous vous sentez, même si vous venez de dire le contraire, plutôt dans l'abstraction des sentiments? Est-ce que pour vous la peinture Agnès Turnauer c'est un retour vers votre propre passé ou c'est simplement la possibilité de transcrire ce que vous pensez?
Alors non, j'ai pas dit l'abstraction des sentiments, ils sont complètement là. J'ai dit juste que je faisais pas de césure entre abstrait et figuratif et que la complexité de la peinture dépasse complètement les cases. Et c'est ça qui m'intéresse chez les artistes, c'est quand ils font fui des comme ça, ils inventent autre chose. Mais oui, non, je trouve que ce que dit Louise Bourgeois est très juste et j'ai tout à fait le sentiment pour ma part parce que j'ai eu l'itinéraire que j'ai eu, que j'ai puisé très profondément les formes qui voient le jour dans mon œuvre et que la solitude ou l'autonomie que j'ai pu avoir pendant de nombreuses années, elle a protégé peut-être une forme de singularité à laquelle je tiens beaucoup, juste parce que c'est celle qui m'intéresse chez les artistes autour de moi. C'est vraiment la singularité d'une écriture qui fait qu'on arrive dans un monde qui est une planète totale et qu'on est complètement intéressé, interpellé, bouleversé. Je trouve que ce que j'entends très bien ce que dit Louise Bourgeois là. Effectivement, je ne sais pas si c'est dans la dernière partie de sa vie qu'elle a traité ça. Je pense que ça la traverse. Je pense qu'on est vraiment traversé. Enfin, selon le type d'artiste qu'on est. Moi, j'ai pas été du tout quelqu'un de stratégique en projetant, en organisant. Je me suis laissée traverser par ce dont j'étais faite et ça me traverse depuis toujours. Et je pourrais peindre encore 200 ans avec ça.
Louise Bourgeois a attendu de très nombreuses années pour pouvoir être enfin reconnue à sa juste mesure. Vous avez traversé des moments très difficiles, Agnès Turnauer, vous l'avez dit tout à l'heure, pour pouvoir construire votre monde. Vous avez ignoré toutes les stratégies, vous êtes éloignée des centres décisionnaires de la peinture, que ce soit les musées et les galeries. Comment avez-vous vécu ce que certains appellent la traversée du désert ?
Alors la première traversée, j'avais pas notion de traverser le désert parce que pour moi j'étais dans mon atelier, je peignais et je savais que j'en aurais pour ma vie entière. J'avais quand même une indication qui a été très précieuse et c'est aussi pour ça que je suis heureuse de publier bientôt le deuxième volume de mes notes d'atelier chez Macula l'année prochaine. C'est parce que les journaux des autres artistes m'ont considérablement aidé, notamment celui d'Eva Hesse, qui était une artiste dont j'aime énormément le travail, d'une liberté inouïe, qui a, elle, justement, eu une écriture totalement autonome de ce qu'était le minimalisme de l'époque, et dont j'ai pu prendre connaissance des doutes en même temps que de l'achèvement total de son œuvre, ce qui m'a considérablement épaulée. Mais cette première traversée, c'était normal. Je baignais seule dans mon travail, il fallait le temps que ça s'élabore. Ensuite, effectivement, j'ai eu une seconde traversée à l'âge de 40 ans, et parce que parfois il faut mettre du temps pour rencontrer les personnes avec qui la collaboration va porter ses fruits.
Comment vous avez vécu matériellement ?
J'ai vécu de mon travail depuis l'âge de 40 ans grâce à Guylaine Husneau qui a été ma première galeriste et qui m'a permis de rencontrer beaucoup de formidables collectionneurs qui m'ont suivie. J'ai pu vivre de mon travail depuis ce temps-là.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical d'Agnès Turnauer, C'est dans la vallée, de Rodolphe Burger et Olivier Cadieu.
Spent all my money on whiskey and beer. I'd go to some hollow and sit up my still and if whiskey don't kill me then I don't know what will. Adrenaline.
Moi, je crois que l'écriture, c'est le langage qui est là pour nous témoigner de l'existence et de la fascination d'une sorte d'en-deçà du langage. Autrement dit, pour parler peut-être plus clairement, enfin de façon plus élémentaire, la littérature a besoin du mot, cela vous ne le contesterez pas, elle a besoin du mot et non pas de l'algorithme. Nous ne pouvons pas édifier le monde et vivre dans le monde sans le mot. Nous ne pouvons pas renvoyer les mots uniquement à des tâches purement transitives et contingentes, de pure communication banale entre les hommes. Et nous avons besoin des mots pour d'autres tâches encore assez énigmatiques qui ne sont pas uniquement des tâches de communication. Et là, le mot est irremplaçable, le mot de la langue, et non pas le signe algorithmique.
Que j'exprime par un mot lorsque je le nomme.
Oui, d'abord, il y a cela, que vous entrez par là même dans une circularité infinie où vous avez de nouveau besoin des mots. Non, mais si vous voulez, ce que je voulais dire par cette remarque, c'est que on ne peut pas, mais nous le savons, mais je crois qu'il faut le redire, d'ailleurs il y a des gens qui le contestent, donc il faut le dire d'autant plus. Nous ne pouvons pas réduire le langage à une simple fonction de communication. C'est au fond, disons, c'est très simple, très élémentaire, mais c'est un peu cela que nous apprenons depuis une vingtaine d'années. Le langage ne sert pas seulement à communiquer, il sert, si vous voulez, il ne sert pas donc à faire passer tout uniment et tout simplement des messages entre des hommes, mais au fond, je dirais, à chaque moment du langage, le langage sert à construire le rapport avec l'autre, c'est-à-dire à construire tout simplement le sujet, à nous construire dans le monde. Et c'est cela qui est important, n'est-ce pas ? Beaucoup plus que la fonction qu'on appelle couramment la fonction de communication.
Nous venons d'entendre la voix de Roland Barthes qui parlait de sa conception du langage. C'était le 17 octobre 1967 au micro de Georges Charbonnier. Et vous, Agnès Turnauer, depuis longtemps, depuis l'aube des années 2000, mais jusque dans une de vos dernières expositions à Bruxelles, vous travaillez les mots pour les inscrire sur l'espace de la toile, les mots pour nous faire comprendre des situations de tension et d'émotion, les mots pour pouvoir peut-être nous guider à l'intérieur de votre univers. Que représente un mot à l'intérieur de votre langage artistique ?
Le contraire de la communication, effectivement, c'est très, très beau ce que dit Roland Barthes là. Je suis tout à fait. C'est tout à fait le cœur de mon travail sur les mots sont des formes aussi. Ce sont des formes, ce sont des poches de sens, ce sont des organismes vivants et c'est la condition de l'altérité. On a parlé. J'ai cette relation d'enfance que je peux pas oblitérer quand je parle de l'élaboration de mon travail parce qu'elle est constitutive, je pense, de mon intérêt pour la question du langage comme altérité avec mon frère qui parlait pas. Donc il y a vraiment cette question de la, on se constitue mutuellement. J'ai dit que quand je peins l'œuvre, nous donnons naissance, la peinture et moi, ou l'œuvre et moi, mais je pense que le langage est effectivement, comme dit Roland Barthes, la condition de l'altérité, de la différence et de la ressemblance et de voilà. Donc je mets les mots au même niveau que sur la surface de la toile, les mots sont là, où le scriptible est là, comme dit Roland Barthes, j'aime beaucoup cette expression qui est le langage en potentiel, avant que, justement, il se forme en phrase. Il est là comme un espace. Le langage est là comme un espace, au même titre que les formes, les couleurs, les figures. Il fait partie de l'espace de la peinture. Comme il en a fait partie historiquement, en plus, Daniel Arras le dit très bien dans les annonciations italiennes, hein. Le langage, le scriptible, l'écrit était là dans l'espace du tableau, aussi pour nous faire prendre conscience de cette chambre qu'est le tableau, cette chambre tridimensionnelle où quelque chose est raconté et où en tant que spectateur ou spectatrice, on est devant, mais on peut aussi se mettre à la place de celui qui parle parce que selon le sens de l'écriture, qu'elle est écrite dans un sens, à l'endroit ou à l'envers. Et pour moi, ça, c'est merveilleux, en fait. Ouais. Donc, je mets l'écriture au même niveau que tout acte de représentation dans un tableau.
Dans quelle langue parliez-vous avec votre frère quand vous étiez petite, Agnès Turnauer?
Bah d'abord, moi, je lui parlais français, c'est ma langue, mais on a beaucoup baigné dans l'anglais aussi. J'aime beaucoup l'anglais, donc j'utilise souvent l'anglais dans cette série qui s'appelle Les Prédelles et qui fait référence aux prédelles religieuses, ces petits formats qui sont sous les grandes scènes dans l'histoire de l'art, qui sont souvent des très beaux petits tableaux, très 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 concis. Donc mes prédelles, ce sont des diptyques et le mot est scindé en deux. Il y a cette césure au centre où on franchit le sens, la représentation en passant d'un format à l'autre. Et c'est une série que j'aime beaucoup.
Vous avez évoqué les 26 lettres de l'alphabet qui sont en ce moment donc sur une esplanade à Ivry-sur-Seine, là où se situe votre atelier. Vous n'avez pas évoqué un très beau travail qui a été montré donc à Bruxelles sous le titre Land and Language. Et dans cette exposition, il y avait sur les murs des grandes toiles de vous qui figuraient des corps recroquevillés qui nous font penser, m'ont fait penser éventuellement à des situations extrêmes de tous ces réfugiés qui essayent désespérément de frapper aux portes de l'Europe. Et dans ces grands formats que vous avez créés, Agnès Turnauer, entre les corps, dans cet univers géographique complètement atomisé, il y a de la poésie. Il y a des mots.
Oui, il y a de la poésie. Merci de souligner ça. C'est très important pour moi. Mais la poésie est totalement politique pour moi. Et la peinture est politique. Au sens où elle vient effectivement se placer dans un endroit de la société où elle peut à la fois avoir une parole poétique et une parole engagée. Et ces tableaux, je les ai mûris, j'étais complètement en 2016 traversée par l'idée qu'il fallait que je peigne des tableaux sur cette question de la migration et comment je pouvais en rendre compte en tant que peintre, comment je pouvais m'emparer de ce sujet, comment je pouvais le traiter. J'ai fait ces grands tableaux avec l'aide d'un ami poète anglais, Rod Mangum, avec qui j'ai souvent collaboré, qui m'a donné une poche de mots qui sont liés à la migration. Et j'ai voulu représenter, en traçant cette grille de mots sur la toile, comment, et en y tissant ces figures de corps qui traversent des frontières, cette idée qu'on transporte sa langue maternelle entre les bords de son corps et que le corps, dans la migration, devient ce pays qui itinère. Voilà. Et ça a été très fort pour moi, cette expérience. D'ailleurs, j'en ai fait 5 de grands tableaux de cette série. Le premier a été un événement pictural total. Je ne sais pas comment j'ai fait ce tableau, en dehors du fait que je me suis complètement immergée dans cette question et laissée porter par la nécessité de la représentation qui m'a traversée. Et quelque chose de moi n'est pas revenu de ces tableaux-là. Enfin, il y a vraiment une genèse, voilà, une genèse, voilà. Et cette exposition à la Fondation Thalie était vraiment importante pour moi parce que j'ai pu montrer cet ensemble de très grands tableaux avec les sculptures de langage au sol qui donnent souvent le sentiment que ce langage est sorti des tableaux en fait pour qu'on vienne déambuler à l'intérieur, parce qu'il y a toujours un rapport avec la picturalité dans ces formes.
Donc c'est la peinture qui vous guide, c'est un endroit plus ou moins conscient de votre être vivant qui vous guide quand vous faites des tableaux, des sculptures.
Ah ouais, c'est la peinture qui me guide totalement. Elle va me guider là dans le projet que j'ai au LAM à Villeneuve-d'Ascq au début de l'année prochaine, parce que j'ai travaillé en partie à partir d'un très beau tableau de Picasso, une nature morte espagnole avec des cubistes, avec des morceaux de lettres brisées comme ça, qui est un tableau ovale, qui est comme une espèce de bouche qu'on va accrocher au mur. Et elle me guide tout le temps. C'est vrai, je travaille de façon très autonome, mais je m'intéresse aussi au dialogue. Je vais faire une exposition aussi à la fin de l'année prochaine au musée Matisse à Nice. Et il y a vraiment quelque chose qui m'interpelle dans l'œuvre des autres et qui à la fois me met dans une position de dialogue et à la fois me permet d'affirmer mon autonomie et mon espace pictural en fait.
À l'aube des années 2000, vous avez été tout de suite reconnu, célébré, parce que vous avez inventé un dispositif politique, poétique, féministe, très très efficace, là aussi avec des mots, puisque vous avez mis des mots en saturant l'espace de la toile, de toiles que nous connaissons par cœur, parce que nous les apprenons à l'école depuis que nous sommes petits, et notamment des toiles de Manet. Qu'est-ce qui était au départ de cette immense manifestation où vous avez féminisé les noms de Manet, mais pas seulement de Manet, Marcel Duchamp, il y en a eu comme ça des dizaines et des dizaines, sous forme là aussi de gestes artistiques, puisque vous avez peint des grands tableaux pour pouvoir nous rappeler à nous, regardeuses et regardeurs, eh bien que l'histoire de la peinture, elle est plutôt quand même encore aujourd'hui, malgré de petits aménagements avec les quotas, elle est plutôt l'affaire encore des hommes.
Oui, tout à fait. Alors, quand vous avez dit à l'aube des années 2000, j'ai cru que vous alliez parler de cette expérience extraordinaire du Palais de Tokyo. En fait, c'est vrai que mon travail est sorti, comme on dit, un peu curieusement à ce moment-là, à la fois au Palais de Tokyo en 2003 avec une exposition qui a été formidable, je dois dire, dans l'état d'esprit dans lequel elle a été faite, et puis de ce que j'ai pu montrer de mon travail à ce moment-là, qui était vraiment un travail de la peinture, de l'écriture, du rapport au corps, de la performativité du tableau, de comment nos gestes s'inscrivent dans l'espace de la toile. Enfin, c'était vraiment un acte très important pour moi que cette exposition. Et puis ensuite, il y a eu ce travail effectivement de représentation, représenté comme je l'ai entendu dans une de vos émissions précédentes avec un historien, un sociologue, c'est rendre présent. Et effectivement, j'ai eu envie de représenter, c'était il y a longtemps, hein, j'ai fait ce travail dans les années 2000.
Mais oui,
donc,
mais il est
temps.
Toujours actuel.
Oui, il est toujours actuel. Et c'était le fait de comment je pouvais rendre présent cette absence des femmes dans l'histoire de l'art, et comment aussi, dans certains tableaux historiques, je pouvais les tisser de mots qui donnent voix à ces figures aussi. La question du modèle, qu'est-ce que c'est que la subjectivité du modèle? qu'est-ce que c'est que ce corps féminin qui pose? Et en fait, s'il pose de façon muette et impavide, mais quelle est sa vie psychique? Et prêter, et c'est quelque chose que je continue toujours aujourd'hui, d'ailleurs, là, il y a des tableaux, voilà, de tisser un visage ou avec des mots. Mais je me suis aussi beaucoup intéressée il y a très longtemps, à la bisexualité psychique de Mélanie Klein. Et j'ai depuis très longtemps trouvé que Freud s'était un peu empoulé et que ça nous mettait dans des cases. Et que Mélanie Klein avait bouleversé tout ça en disant « désarrimant le féminin de femme et le masculin de homme ». Et ça, c'est vraiment le 21e siècle et c'est absolument formidable, quoi. Et je vois là, dans la jeune génération, tout ce que j'avais perçu, aussi comment la chance de homme et femme, c'était le troisième tiers qui est du queer et du trans et... voilà, arrêter d'opposer les formes de façon binaire et les laisser plus ouvertes, en fait. Aussi bien dans la question abstrait figuratif que homme-femme, féminin-masculin, etc. Donc ouais, j'ai fait ce long travail qui a eu un écho énorme parce que il a donné une forme à quelque chose qu'on voyait pas, qu'on n'avait pas représenté. Et c'est vrai que à l'ouverture de Elle à de son Pompidou, ça a été assez dingue de voir le que ça donnait à voir, hein, qu'en fait les visiteurs lambda qui venaient voir cette exposition tout d'un coup se prenaient conscience de cette immense absence qu'on est en train de combler petit à petit des femmes dans l'histoire de l'art.
Edouarda Manet, elle existe peut-être?
Oui, surtout Edouarda Manet. Je pense que Manet était un artiste très féministe et qu'il avait un double féminin comme Marcel Duchamp avait un double en Rose et la vie. Puis je pense qu'on a tous et toutes des doubles en nous. Je pense pas qu'on soit on est pluriel.
Que pensez-vous de la redécouverte, peut-être pas assez rapide ni assez accélérée, mais de la redécouverte de celles qui ont été des compagnes, ravalées pendant très longtemps au rang de muses ou d'inspiratrices des grands peintres, et qu'on maintenant, on commence à exposer, à reconnaître? Est-ce que vous pensez que ce mouvement va continuer et que la place des femmes dans l'histoire de l'art et dans le futur de l'art est enfin conquise?
Oui, oui, je pense que c'est un grand mouvement qui s'arrêtera pas et qu'il faut fournir et fourbir en continuant à faire les expositions qui ont lieu actuellement. Bien sûr, c'est fondamental. Et puis que dans l'avenir, on ne pense plus les choses en termes de artiste homme ou artiste femme, mais que voilà, tout le monde, l'œuvre puisse être montrée pour ce qu'elle est.
Ben merci infiniment Agnès Turnauer. Sur notre site, vous trouverez tous les renseignements pour pouvoir voir l'œuvre artistique d'Agnès Turnauer dans ses différents registres. Et puis vous qui avez traversé une période de solitude, la fin de l'année 2021 et le début de l'année 2022 vont être très remplis. En ce moment même, on peut voir vos œuvres à l'Orangerie au Musée de l'Armée à Paris. Mais la grande rétrospective, ce sera au LAM à Villeneuve d'Ascq en début d'année. Et puis, il y aura aussi une grande exposition intitulée Métamorphose. Merci beaucoup, Agnès Turnauer.
Le temps s'écoule et moi je coule tant qu'il est temps. J'ai tant d'années que mes pieds sont lourds. Ça y est, le vent est entré, mais maman, je passe mon tour. J'ai ouvert toutes les fenêtres, il veut m'en. Je suis la fille.
Et c'est avec Laura Cahen que nous allons nous quitter ce soir. Merci à Thomas Langlin qui est à la régie technique ce soir. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. Merci à Céline Villegas, Élodie Royer, Iris Vertanessian et bien sûr à Lilian Alaume qui, comme chaque soir, a réalisé cette émission. Je rappelle aussi que vous pouvez voir le travail d'Agnès Turnauer en ce moment même à Ivry dans son installation, donc dans l'espace public, installation qui s'intitule tout simplement Matrice. Après le prochain journal d'information, vous avez rendez-vous avec l'ami Mishka Assayas pour son Very Good Trip.